Vous êtes sur RTL.
Bah, c'est dur d'être dans son coin et de clamer son innocence, de prouver son innocence, de dire attendez, là vous faites erreur, ça peut pas être moi, ça va pas. Bah, en fait, on est tout seul à dire ça et c'est pire qu'un cauchemar, effectivement. C'est pas qu'un cauchemar.
Bonsoir. L'ombre d'une erreur judiciaire. La justice s'est-elle trompée en décembre 2018 en condamnant deux hommes à de lourdes peines de prison pour un meurtre qu'ils ont toujours nié? C'est cette question que nous posons ce soir dans l'heure du crime, tant cette affaire nous intrigue. Expertise oubliée, témoins jamais entendus et une victime dont on découvre la double ou triple vie. Une enquête incomplète, mais fatale pour le principal accusé, Fabrice Da Silva, un agent immobilier aujourd'hui âgé de 38 ans, il aurait commandité le meurtre de son associé tué d'une balle en plein thorax en décembre 2010 dans une rue de Noisy-le-Grand en Seine-Saint-Denis. Fabrice Da Silva a remué ciel et terre pour démontrer son innocence. Deux contre-enquêtes ont ainsi apporté une série d'éléments plus que troublants, susceptibles de faire voler en éclat toute la procédure. Pourtant, lors d'un premier procès, les jurés de la cour d'assises de Seine-Saint-Denis en ont décidé autrement. Ils ont condamné Fabrice Da Silva a 22 ans de prison, ce qui ne l'empêche pas de poursuivre son combat dans le but de prouver son innocence et sa bonne foi. En attente de son deuxième procès, Fabrice Da Silva est libre et nous lui donnerons la parole ce soir en fin d'émission. L'affaire Da Silva, un coupable sur mesure, la justice fait-elle fausse route? L'enquête ce soir de l'heure du crime, à tout de suite sur RTL.
20h-21h, l'heure du crime sur RTL.
RTL. 20h-21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. Et l'heure du crime.
Et ce soir, dans l'heure du crime, le dossier Fabrice Da Silva, un agent immobilier de la région parisienne qui va bientôt se retrouver accusé d'un meurtre commis au cœur d'une nuit froide dans la banlieue parisienne. Ce 14 décembre 2010, peu après 2h du matin, le corps d'un homme d'une trentaine d'années est découvert, gisant en travers de la chaussée dans une rue de Noisy-le-Grand, en Seine-Saint-Denis. Il sortait apparemment de sa voiture, stationnée juste à côté du corps, quand il a été agressé. Il a reçu des coups au visage, mais c'est une balle qui l'a tué. Une cartouche de calibre 12 de type Brennec, une munition utilisée généralement pour la chasse au gros gibier, est retrouvée sur le bitume. Il ne faut pas aller chercher bien loin l'arme du crime. De toute évidence, c'est le fusil à canoncier retrouvé sur le siège de la voiture. Un fusil Mossberg, dont la crosse et le canon ont été volontairement raccourcis. Une arme légère et maniable utilisée par les gangsters pour des braquages. Un seul coup de feu a suffi à terrasser ce jeune homme sportif qui porte un pantalon de survêtement blanc et un sweat à capuche. L'identité de la victime est rapidement établie. Il s'agit de Bandjougou Diawara, 32 ans, marié. Il gagne sa vie comme apporteur d'affaires dans une agence immobilière. Il trouve des biens pour des clients, pour son patron et associé, un certain Fabrice Da Silva. Pour le moment, les policiers de la brigade criminelle s'intéressent plutôt à l'autre pédigré de Bandjougou Diawara. Pas l'agent immobilier, mais plutôt celui d'un homme fiché pour une quinzaine d'affaires, déjà condamné pour séquestration, racket et trafic de stupéfiants, un casier judiciaire qui laisse entrevoir peut-être un règlement de compte ou encore peut-être une bagarre sur fond de désaccords financiers ou de deal de drogue. La police scientifique est à pied d'œuvre. Elle collecte les indices. Une paire de gants chirurgicaux ainsi qu'un masque médical sont retrouvés dans une poubelle toute proche de la scène du meurtre. Quant à la crime, elle va, elle, s'occuper de reconstituer l'emploi du temps de la victime et examiner son environnement. Aucun témoin n'a assisté au meurtre de Bandjougou Diawara, familièrement appelé Ben par tous ses amis. Maître Sylvain Cormier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes l'avocat de Fabrice Da Silva, accusé donc d'être le commanditaire du crime. On va évidemment revenir sur son procès, etc., et puis ce qui s'est passé par la suite. Mais tout de suite, on est là face à une scène de crime, si je puis dire, assez classique, hein, sauf qu'il y a des détails qui clochent. Qu'est-ce qui ne va pas dans ce décor?
Des détails un peu moins classiques. Moi, une des premières choses qui m'avait interpellé, c'est le fait qu'on trouvait le haut que portait la victime, qui était intact. Donc, il avait été levé. Et pourquoi on lèverait le haut de cette victime ? Je me suis dit sans doute que les tueurs ou le tueur avait voulu vérifier s'il y aurait des micros, quelque chose comme ça.
Enfin, ou s'il avait peut-être une arme sur lui aussi.
Ou peut-être une arme sur lui, c'est vrai, on peut imaginer ça. Moi j'étais parti plutôt sur l'idée d'une espèce de fouille un peu pour voir s'il n'y avait pas un micro.
Et on verra, mais bien plus tard dans cette heure du crime, on verra pourquoi effectivement il aurait pu y avoir un micro sur ce personnage.
Oui.
Donc là, de toute évidence, il y a un souci avec ce sweatshirt.
Oui.
Il y a une mise en scène déjà, c'est ça ?
En tout cas, il y a quelque chose qui n'est pas courant, c'est pas banal de lever le sweatshirt de quelqu'un avant de le tuer, et vraiment, on se posait des questions. Il y a aussi ce qu'on va trouver dans le... franchement, là, c'est carrément insolite, ce qu'on va trouver dans la boîte à gants de la voiture.
Ah, racontez-nous, alors.
On trouve un passeport de quelqu'un d'autre, on se balade... pas tous, avec le passeport de quelqu'un d'autre.
Ça peut arriver, mais
c'est rare. Ça peut arriver, mais c'est quand même assez rare. Et puis, on va trouver, alors plus tard, on va trouver chez lui des photos de l'identité judiciaire.
Oui, oui. Donc là, on est face à un personnage, et on va y revenir, de ce portrait qui va se dessiner peu à peu, qui est sans doute plus complexe que simplement un simple apporteur d'affaires, quelqu'un qui travaille dans une agence immobilière. C'est sans doute plus riche que cela. Michel Fine, bonsoir.
Bonsoir.
Notre deuxième invité ce soir dans l'heure du crime, vous êtes journaliste spécialiste des affaires criminelles. Vous avez réalisé un film enquête produit par Tommy Comiti Productions. Fabrice Da Silva, innocent ou coupable, c'est le titre de cette enquête qui a été diffusée sur TF1 dans l'émission Grand Reportage. On peut toujours la retrouver en replay. Je conseille d'ailleurs de la regarder parce qu'elle est très éclairante sur cette affaire et sur le cheminement des protagonistes. Alors, Maître Sylvain Cormier nous a parlé de ce sweatshirt mystérieusement remis à sa place alors qu'il aurait dû porter des impacts de balles. Il y a quelque chose qui m'intrigue beaucoup, c'est cette histoire de poubelle avec des gants chirurgicaux et en masque. Je rappelle qu'à cette époque, les masques, il n'y en a pas beaucoup, pas partout en tout cas, puisque le Covid n'est pas d'actualité à ce moment-là. Je le précise quand même, parce qu'on pourrait croire que c'est un masque comme ça qui se balade dans la nature. Qu'en est-il ? Qu'est-ce que montrent ces éléments retrouvés ?
Alors, ce qu'il faut, c'est le masque chirurgical... Et les gants, c'est on retrouve dessus un élément que les enquêteurs de la brigade criminelle n'ont pas vérifié. Et au procès, ils ont dit « Ah bah oui, on est passé à côté de quelque chose. Qu'est-ce qu'on retrouve ?» La scène de crime, c'est à côté de sa voiture, le corps de Bandiougou Diawara, allongé par terre. Il a pris une balle dans le thorax.
Perpendiculaire à la voiture.
À la voiture. On est en plein hiver, il fait très froid. Et sur le siège avant de la voiture, posé... un fusil à canoncier. Vous en avez parlé.
Et vous avez les photos d'ailleurs dans votre documentaire, on voit très bien le fusil à canoncier qui est manifestement exposé presque.
Et on va retrouver, et c'est dans le dossier, un ADN qui s'appelle M5 dans le dossier, ADN numéro 5, à l'intérieur de la chambre de chargement du fusil et sur les gants qu'on retrouve à côté d'un masque chirurgical sur la scène de crime.
Donc là, c'est extrêmement important ce détail que vous apportez, parce que la chambre d'une arme, c'est pas n'importe quoi. Hein. C'est l'endroit où, effectivement, on glisse une cartouche. C'est l'endroit stratégique pour quelqu'un qui veut tirer. Et ça serait donc la même personne qui aurait à la fois chargé ce fusil et porté ses gants ?
Alors, c'est une hypothèse. Il y a deux hypothèses. Soit c'est les enquêteurs qui sont arrivés... post-mortem, après, une fois qu'ils ont trouvé le cadavre sur la scène de crime. Mais alors, pourquoi auraient-ils mis leur ADN à l'intérieur de la chambre de chargement du fusil ? Soit c'est le tueur. Le tueur, il a chargé la cartouche à l'intérieur de ce fusil, si c'est l'arme du crime, parce que c'est aussi un problème.
On
y viendra plus tard. Et il a peut-être, hypothèse, utilisé des gants pour cela. Et ensuite, il a jeté le gant sur la scène de crime. Qu'est-ce qu'on fait habituellement ? On trouve un ADN comme ça, on a un doute, on met l'ADN dans le fichier national des empreintes génétiques pour voir s'il match. Or, c'est une des choses qui n'a pas été faite dans ce dossier. Les enquêteurs n'ont pas considéré que ça pouvait être une piste, ni que c'était un indice, et ils n'ont pas comparé cet ADN. Donc on ne sait toujours pas à qui appartient cet ADN aujourd'hui.
Donc on ne connaît pas cet ADN, et effectivement, ce qui est extrêmement troublant, c'est qu'on laisse tomber tous ces indices qui sont en déshérence. Donc on va les oublier, on va les mettre entre parenthèses. Maître Cormier, ça je suppose que quand on est avocat et qu'on défend quelqu'un qui est tout de même... accusé de meurtre, ce qui est très grave. C'est quelque chose qui pèse beaucoup là, dans une défense. On peut s'en servir, on peut s'appuyer là-dessus.
Oui, mais je pense que ça ne suffit plus aujourd'hui. Il faut bien comprendre qu'on exige de plus en plus de la défense de faire des demandes d'actes, de vérification. Alors moi, je suis intervenu entre les deux procès, après le premier procès et dans l'attente du procès en appel. Mais c'est une possibilité que nous offre le Code de procédure pénale. On peut interpeller le président avant le procès d'appel pour lui dire « Attention, il y a des gros oublis et il va falloir les combler ».
Les policiers vont donc interroger tous ceux qui connaissaient le mieux Diawara. Le but premier étant de savoir si cet homme avait des ennemis déclarés. Sa famille, bien sûr, va être entendue, et puis également Fabrice Da Silva, son associé dans l'immobilier. L'affaire Fabrice Da Silva est-il victime d'une erreur judiciaire? C'est l'enquête ce soir dans l'heure du crime. On se retrouve dans un instant sur RTL.
Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Et l'heure du crime.
L'heure du crime sur RTL.
Ce soir, heure du crime consacrée à l'affaire Fabrice Da Silva. L'associé de cet agent immobilier de Seine-Saint-Denis a été retrouvé mort en décembre 2010. Fabrice Da Silva est naturellement sur la liste des personnes à entendre. Quelques temps après le meurtre de Bandjougou Diawara, Fabrice Da Silva, son associé, se rend à la convocation de la brigade criminelle. L'agent immobilier explique avoir fait la connaissance de Diawara 4 ans plus tôt, en 2006. Ce dernier lui a alors proposé de travailler avec lui, de devenir un apporteur d'affaires pour l'agence, activité parfaitement légale qui consiste à trouver des biens à vendre ou à acheter. Fabrice Da Silva indique qu'il entretenait d'excellentes relations avec son associé devenu peu à peu son ami. Les deux hommes et leurs compagnes vont souvent se retrouver au restaurant. Il leur arrive de partir ensemble en vacances. Da Silva fait évidemment partie des invités au mariage de Ben, quelques mois avant sa mort. Pas de différend, pas de contentieux entre eux. Fabrice Da Silva est le dernier témoin à avoir vu Bandjougou Diawara vivant. Le 13 décembre 2010, vers 22h30, ce dernier est passé à son domicile pour lui restituer les clés d'un appartement mis en location. Ben ne s'est pas attardé. L'agent immobilier décrit un homme qui n'avait pas l'air inquiet, revenait de la salle de sport et s'apprêtait à rentrer chez lui. Dans ses déclarations, Da Silva indique qu'après le départ de Ben, il est lui-même sorti de son côté. Il s'est rendu, non loin de là, chez Michel, l'un de ses meilleurs amis. Il n'a appris le meurtre de Ben que 2 ou 3 jours plus tard. Les policiers de la crime ont-ils des doutes sur la version servie par l'agent immobilier? Le fait est qu'il continue assidûment à s'intéresser à lui. Il dispose de certaines informations selon lesquelles il devrait une très forte somme d'argent à Diawara, une dette qu'il n'aurait pas honorée et qui aurait pu le conduire, pourquoi pas, à tuer son créancier. Qui plus est, les expertises ADN dévoilent que le fusil à canoncier, toujours considéré comme l'arme du crime, que ce fusil révèle donc 3 empreintes. Un premier ADN, celui de la victime, un deuxième, celui d'un inconnu, et un troisième, plus surprenant, celui de Michel, le meilleur ami de l'agent immobilier, l'homme chez qui il est passé le soir du meurtre. De là à imaginer que Fabrice Da Silva a confié à Michel le soin d'accomplir la basse besogne, il n'y a qu'un pas que les policiers vont s'empresser de franchir. Sylvien Cormier, vous êtes l'avocat, je le répète ce soir, de Fabrice Da Silva, et notre invité, évidemment, dans l'heure du crime. Alors, soyons très clairs et très directs, c'est tout à fait troublant, cette trace ADN du certain Michel, qui est l'un des très bons amis de votre client, de Fabrice Da Silva, justement sur la gâchette de l'arme, sur la détente de l'arme.
Oui, ça pourrait être troublant si on n'étudie pas les expertises ADN à fond. D'abord, c'est un mélange. On parle d'un mélange. Et il faut savoir que cette queue de détente avait été analysée une première fois dans le dossier par un laboratoire renommé, l'IFEG. Et l'IFEG n'avait trouvé aucune trace ADN sur cette queue de détente. On envoie l'arme chez le balisticien, puis ensuite on fait une contre-expertise et là on trouve un ADN dans un mélange. C'est très curieux quand même. Donc on va se poser de très sérieuses questions sur cet ADN.
Ouais. Mais mélange ou pas, il y a la trace de Michel.
Tout de même, mais qui n'y était.
On est d'accord.
d'une part incomplète et d'autre part elle n'y était pas à la première expertise.
Ouais. Donc ça c'est, et comment on peut expliquer ça? C'est
ben, y en a un des deux qui s'est trompé et moi je pense que c'est le deuxième.
C'est ça. Donc cette expertise selon vous, elle ne tient pas tellement la route. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'appuyer là-dessus pour dire clairement c'est Michel qui a pressé la détente, par
exemple.
Alors,
elle est plus que critiquable sur plusieurs aspects, notamment sur la manière dont a été présenté le résultat. C'est un mélange, c'est un résultat incomplet. On trouve des allèles, pour être très complet, qui ne sont pas ceux du fameux Michel. Mmh. Donc,
D'autant plus que c'est une trace infime, je crois, oui. D'après ce que j'ai pu lire et voir. Hein, y a vraiment pas beaucoup d'ADN. C'est quelque chose qui est
tout à fait
très, très fugace. Donc, on ne peut pas dire que c'est quelqu'un qui est pressé la gâchette, etc. avec force, par exemple.
Je pense qu'on peut même, mais je ne veux pas rentrer trop dans les détails, mais on peut même démontrer l'inverse.
On peut même démontrer l'inverse. En tout cas, vous n'allez pas vous en priver lors du procès qui viendra. Un appel, Michel Fine, journaliste et qui a fait une longue enquête sur cette affaire Da Silva. Alors, il y a un point important dans cette procédure qui, encore une fois, ne fait que démarrer. Hein. C'est que quelque chose qui va être aussi également troublant. Fabrice Da Silva déclare qu'il est sorti et qu'il a rendu visite à son ami Michel.
Il déclare que le soir...
Il le dit tout de suite.
Alors, moi, je pensais qu'il ne l'avait pas dit. Et lui, il me dit, mais le soir du crime... J'ai dit à la police que je suis sortie. J'ai vu d'abord la victime, Benjougou Diawara, enfin la future victime, j'ai vu Ben. Et ensuite, je suis sortie, comme tous les soirs, dit-il, voir mon copain Michel. Je lui dis, mais les policiers disent le contraire, vous avez menti. Il me dit, non, je l'ai dit à la police. Et comme on n'était pas d'accord, on a fini par reprendre les procès-verbaux. Et je lui ai mis les procès-verbaux sous le nez. Et je regarde le procès-verbal et je vois qu'effectivement, sur le premier procès-verbal, la première fois où il est entendu, il dit « j'ai vu Benjougou Diawara » et ensuite, on a mangé, et ensuite, je suis allé voir mon ami Michel. Qu'est-ce qui va pas dans cette histoire? C'est que dans le procès-verbal de synthèse qui sera fait...
Il faut expliquer ça, Michel. C'est-à-dire qu'il y a un premier procès-verbal, ça oui, c'est la première audition.
Première audition de Da Silva.
Et ensuite, les policiers, il faut raconter, hein, vous connaissez ça par cœur.
Voilà,
ils font une synthèse. De
l'enquête.
Voilà.
Pour qui? Pour le magistrat, qui
exactement.
Lui a besoin qu'on lui fasse un petit résumé.
Un résumé.
Et qu'est-ce qu'ils écrivent dans le procès-verbal de synthèse? Ils écrivent « Da Silva a nié être sorti le soir du meurtre ». Alors pourquoi ils écrivent « Da Silva a nié être sorti le soir du meurtre » alors qu'il a dit qu'il était sorti le soir du meurtre?
Alors, une explication, la vôtre, et puis ensuite peut-être Maître Cormier va nous dire ce qu'il en pense. On a trafiqué ce PV de synthèse? Qu'est-ce qui s'est passé?
Est-ce qu'on l'a fait sciemment ou est-ce que on voulait tellement démontrer une thèse que est-ce qu'on s'est trompé ou est-ce qu'on l'a fait de mauvaise foi? Ça, je n'en sais rien. Et on n'a pas interrogé au premier procès devant la cour d'assises les enquêteurs là-dessus. Ça n'a pas été soulevé. Alors c'est très embêtant parce que cette erreur-là entre ce qu'a dit Da Silva et on dit Da Silva a menti, ça va se perpétuer dans la synthèse et ça va arriver au procès. C'est-à-dire que dans l'ordonnance de mise en accusation qui est la première chose et la seule chose au début du procès qu'entendent les jurés, et une partie des magistrats, on dit « Da Silva a menti
ouais, ».
Et on dit encore une chose pire, c'est-à-dire qu'on dit que sa femme a dit le contraire de ce qu'il avait dit. Mais sa femme, elle me dit « j'ai pas dit le contraire ». On m'a posé la question « est-ce qu'il a découché ?» J'ai dit « non, il n'a pas découché ». Et le policier qui a pris le PV a écrit « il n'est pas rentré ». Elle dit « j'ai pas dit qu'il n'était pas rentré ». J'ai dit qu'il n'avait pas découché, mais il n'a pas écrit ça, le policier. Ouais. Audition faite à 3h du matin, elle ne la relit pas bien, etc. Et donc, au final, qu'est-ce que ça donne dans la synthèse de police? Lui, il ment, il dit qu'il n'est pas sorti, et elle dit qu'il n'est pas sorti.
Ouais, c'est ça. Donc, à minima, je dis bien, c'est une retranscription qui serait erronée. En tout cas, c'est un bug important dans cette
procédure. C'est embêtant.
Oui, dans cette procédure. Et puis, Maître Cormier, est-ce que vous pensez que ça a pu ce genre d'erreur influencer le juge d'instruction?
Mais oui, parce que, alors d'abord, en plus, les procès-verbaux de synthèse, c'est des carrefours récurrents dans les dossiers. Donc l'erreur sur le premier se répercute. Et elle se répercute dans les interrogatoires. Et ça devient une vérité. C'est fou ça. On voit un élément factuellement inexact qui va
continuer comme ça. C'est...
Bah, qui prospère et qui a son existence et qui devient vrai, entre guillemets vrai.
Et les policiers sont en plus pas interrogés là-dessus. Hein.
Non,
Michel Fine vient de nous le rappeler.
Au procès, on les a pas interrogés. On n'a pas soulevé ce point.
Donc, on va résumer là très très rapidement, mais c'est qu'on part sur des très mauvaises bases dans ce dossier.
Hein,
si déjà les documents sont non pas falsifiés, je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas erronés.
Il y a eu une erreur manifeste que va reconnaître au procès le chef d'enquête d'ailleurs, en disant il y a eu une erreur.
Erreur ou pas erreur, la nasse policière se referme sur Fabrice Da Silva et son ami Michel. Un an et demi après le meurtre et alors que l'affaire paraît de plus en plus lointaine, les deux hommes vont se retrouver en prison. L'affaire Da Silva, le coupable est-il construit de toutes pièces? L'enquête ce soir de l'heure du crime, on se retrouve dans un instant sur RTL.
20h-21h, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. RTL. 20h-21h, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
Ce soir, heure du crime consacrée au dossier Fabrice Da Silva. Au fil des mois, cet agent immobilier est devenu le suspect numéro 1 dans le meurtre de son associé. La brigade criminelle pense tenir en lui le coupable. Le 22 mai 2012, un an et demi après le meurtre de Bandjougou Diawara, Fabrice Da Silva et son ami Michel sont interpellés par la police. Les deux hommes sont aussitôt placés en garde à vue. Da Silva est alors sur la sellette. Dans ses précédentes déclarations, il avait indiqué qu'il n'avait jamais vu son associé Diawara, la victime, avec une arme. Mais il avait menti. Un an auparavant, Diawara lui avait demandé de garder quelque temps chez lui une arme, un fusil à canoncier identique à celui du meurtre, ainsi qu'une boîte de cartouches. Da Silva avait obtempéré sans se poser beaucoup de questions. Mensonge éventé. Son ami Michel, en garde à vue, dans une pièce séparée, parle du fusil. Il raconte avoir vu l'arme un jour chez Fabrice Da Silva, lequel est désormais fatalement accusé de mensonge. À cause de cette bêtise, dira-t-il, il s'est retrouvé enfermé dans un couloir, celui de la suspicion, alors qu'il n'avait rien à cacher. Les enquêteurs évoquent également une expertise portant sur la téléphonie. Le portable de Fabrice Da Silva a borné pas très loin de la scène de crime, aux alentours de minuit, peu après la mort de son associé. Il est donc soupçonné de s'être rendu sur les lieux. Un commanditaire qui serait retourné sur le lieu du crime pour vérifier si le travail a bien été fait, pourquoi pas ? Da Silva dément. Il répète qu'il s'est déplacé cette nuit-là, mais seulement pour rendre visite à son ami Michel. L'expertise se veut accablante, même si elle n'est pas tout à fait concluante. L'antenne relais sur laquelle le téléphone a borné couvre certes la zone du crime, mais aussi le domicile du dénommé Michel. La téléphonie ne peut donc pas être une preuve certaine. En dépit des doutes, des questions, des dénégations forcenées de Fabrice Da Silva et de son ami Michel, les deux hommes sont placés sous mandat de dépôt. Pour les enquêteurs, les choses sont claires, tout concorde. L'agent immobilier a fait abattre son associé pour une sordide question d'argent. Sylvain Cormier, vous êtes l'avocat, je le rappelle, de Fabrice Da Silva dans cette affaire. Cette garde à vue, là aussi, je vous repose la première question qu'on a posée au début de cette émission. Qu'est-ce qui cloche? Je crois qu'il n'a pas d'avocat, d'ailleurs.
L'époque ne permettait pas d'être assisté d'un avocat lors de l'entretien. Il y avait l'entretien à un préalable avec un avocat, mais pas durant les auditions. C'est un an plus tard que les choses se mettront en place. Oui, pas d'avocat. Et puis, je pense que quand une garde à vue part sur de mauvaises bases, avec des conclusions hâtives, notamment sur la téléphonie, vous l'avez bien mentionné, une hypothèse très fragile, parce que honnêtement, il n'y a aucune raison qui justifie qu'il y ait une friction entre Ben, je vais l'appeler comme ça, et son ami Fabrice. On aura parlé de cette dette, vous l'avez évoqué en introduction, mais qui est qui est très variable.
Alors moi j'ai dit qu'ils avaient, lui, Fabrice Da Silva, il dit, moi j'avais des rapports tout à fait courtois et honnêtes avec mon associé, on s'entendait bien, on était même copains. Quels sont les rapports entre les deux? Qu'est-ce qui est ressorti de cette enquête?
Moi je pense qu'ils s'entendaient très bien et que effectivement leur association n'était pas très prospère sur le plan économique, ils n'avaient pas réussi à vendre ensemble de biens, il y avait peut-être une légère frustration de Ben de ce point de vue-là, mais voilà, il y a rien d'anormal quoi.
On n'a pas trouvé de la fameuse dette. Enfin, c'est l'entourage de la victime qui le dit.
Moi, Michel Fine. Quand j'ai commencé mon enquête, j'ai vu Fabrice Da Silva qui m'a raconté l'histoire, et puis tout de suite j'ai vu des gens dans le camp d'en face, c'est-à-dire des amis de Ben. Ses meilleurs amis, j'ai essayé de voir la famille, de parler au maximum de personnes pour pouvoir vraiment me faire une idée, ma propre idée. Et tout de suite, un des amis de Ben, qui est d'ailleurs le dernier à avoir eu Ben au téléphone avant le crime, c'est pour ça que je voulais le voir, il me dit non, mais Fabrice devait de l'argent à Ben, j'ai assisté à une remise d'argent en espèces, il me dit 300 000 euros, j'y ai assisté. Je dis, alors ça, c'est une information importante. Je lui dis, mais vous l'avez dit à la police? Il me dit, oui, bien sûr, je l'ai dit à la police. Donc, je rentre chez moi, je regarde la procédure, et je vois qu'à la police, il a dit 50 000 euros. Ah bon, 300 000 ou 50 000 euros? Et après, il va venir au procès, et au procès, il va dire, oh, bah, c'était à peu près entre 70 000 ou 90 000. Alors, Fabrice Da Silva devait de l'argent à Ben, c'était 300 000, c'était 50 000, c'était 70 000, c'était 90 000, il faudrait savoir. En tout cas, c'est une manière de créer un nuage et de dire, même si on n'a pas la preuve, il est coupable puisqu'il avait un mobile.
Un mobile. Sylvain Cormier, avocat de Fabrice Da Silva, je reviens vers vous. Alors, on a parlé de la piste de l'argent qui pourrait être un mobile pour les policiers. Alors, parlez-nous de ce mensonge fatal de votre client, Fabrice Da Silva, sur cette arme.
Est-ce que c'est vraiment un mensonge? Il faut aussi se placer dans la tête de Fabrice, qui pourrait être tout un chacun, ça peut être nous.
On résume, hein. Les policiers lui demandent tout simplement, est-ce que vous aviez vu votre associé un jour avec une arme? En gros, c'est ça. Hein.
Ouais. Lui, il dit qu'il ne parle pas de l'arme, en fait. Il ne va pas en parler. Et en fait, il avait bien gardé cette arme pour son ami. Moi, je comprends très bien sa position. Ça peut être délicat d'en parler. Il peut ne pas forcément faire le lien. Il peut jeter une ombre sur la personnalité de son ami.
Il est pas le seul à lui dire, d'ailleurs. Hein. Ouais. Il y en a d'autres qui disent, bah non, Ben, il n'était pas armé. Qui ment, hein, pareil, hein, comme lui.
Donc, il y a plein de raisons qui peuvent expliquer ça. C'était peut-être pas complètement évident aussi à évoquer spontanément. Donc
dans tous les cas, il faut rendre tout de même. C'est très légitime de la part des policiers de s'interroger. Vous posez une question à quelqu'un, il vous dit bah non, moi j'ai pas vu d'arme et tout. Puis vous apercevez que la personne a entreposé un fusil puis une boîte de cartouches chez lui. Vous pouvez poser des questions. C'est légitime, non, monsieur?
C'est légitime, mais il faut ne pas oublier les autres pistes qui sont complètement ignorées. Et c'est là où ça devient. Quand on s'excite sur un élément comme ça et qu'on bâtit tout un scénario ubuesque pour oublier des éléments bien plus sérieux, bien plus. Parce qu'au départ, les enquêteurs, tout le monde vient leur dire c'est un règlement de compte. Attention, c'est une victime de son activité, Ben, parce qu'il aidait la police. Et c'est ça qui va. Et ça, on va l'ignorer complètement.
Le balayer.
Il y a eu des menaces qui lui ont été faites. Les témoins en parlent. Il y a le frère qui se fait agresser. Après, il dit non, c'était pas si grave comme agression. Enfin, il y a des choses vraiment sérieuses et qui ne sont pas du tout investiguées par les policiers.
Qui ne sont pas abordées. Michel Fine, je reviens encore un petit peu sur cette arme parce que c'est assez troublant. Bon, il a menti, il a dit qu'il n'avait pas l'arme. Le fait est, c'est qu'il avait bien cette arme et qu'il l'a montré même à son ami Michel. Est-ce qu'on peut envisager, question simple, qu'à ce moment-là, tous les deux aient finalement touché l'arme, ce qui expliquerait la trace ADN de Michel sur la détente?
Il peut y avoir un ADN de transfert, c'est-à-dire que l'hypothèse.
Alors, c'est quoi un ADN?
Alors, c'est-à-dire que Ben donne, il déménage, il lui donne un certain nombre d'affaires, dont cette arme et deux autres armes de poing que Fabrice garde dans un sac. Un jour, Michel, son pote, vient le voir un soir, et Fabrice, il est un peu comme ça, il lui dit « Oh, regarde ce que j'ai mmh. !» Et il lui montre l'arme, il lui dit « Oh, regarde !» Il la manipule, et il fait un peu le malin avec l'arme. Et Michel lui dit « Mais t'es fou ! Mais tu te rends compte, tu as une arme comme ça, mais garde pas ça chez toi, elle est à qui ? Elle est à Ben, mais rends-lui cette arme !» Donc il va lui rendre l'arme. Mais Fabrice, il manipule l'arme. Michel dit qu'il ne la touche pas. Il dit vraiment qu'il ne la touche pas. Il peut y avoir, et ça arrive dans les dossiers, un transfert d'ADN, c'est-à-dire que Fabrice peut être quelqu'un qui ne transfère pas l'ADN, il touche l'arme, et il a pu très bien transférer l'ADN de Michel sur l'arme que lui-même a touchée.
C'est ça. Donc,
il y a des gens qui transfèrent l'ADN et il y a des gens qui ne transfèrent pas l'ADN. Je touche l'arme, je vous serre la main. Je vous serre la main, je touche l'arme, je vais transférer votre ADN après vous avoir serré la main sur cette arme.
C'est-à-dire, c'est ce que disent les experts. Ils disent c'est pas parce qu'il y a une trace ADN sur une scène de crime. Là, on parle
surtout en mélange. Hein.
Voilà, au sens large et surtout en mélange que c'est forcément les coupables qui sont là, qu'on tient les coupables. Hein.
Ça relativise énormément l'ADN comme reine des preuves.
Est-ce que à ce moment-là, Sylvain Cormier, est-ce que les policiers sont sûrs de leur coup? On a l'impression que là, ils ont vraiment envie que ces deux-là, ils prennent
le... Ils vont plus lâcher cette piste et ils vont rédiger des procès-verbaux comme celui qu'on a évoqué, le procès-verbal de synthèse, pour présenter le dossier de manière plus sombre qu'il ne devrait être. Et c'est une des failles majeures de cette enquête.
Fabrice da Silva et son ami Michel vont donc se retrouver en prison, sans doute dans l'attente d'un procès qui n'est évidemment à cette heure-là pas encore fixé. L'enquête continue. L'affaire Fabrice da Silva, coupable ou innocent, manipulateur ou victime, l'enquête ce soir de l'heure du crime, à tout de suite sur RTL.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Avec ce soir l'affaire Da Silva dans l'heure du crime, un an et demi après le meurtre de son associé, l'agent immobilier Fabrice Da Silva est sous les verrous. Il va désormais tout faire pour prouver son innocence. Fabrice Da Silva a le sentiment d'avoir été piégé dans une affaire qui le dépasse totalement. Jamais il n'aurait imaginé se retrouver dans une cellule accusé de meurtre. Son épouse prend alors contact avec l'enquêteur et criminaliste Roger Marc Moreau, un professionnel qui connaît par cœur les arcanes judiciaires et mène des contre-investigations. Il s'est notamment illustré dans le dossier Omar Radad. Roger Marc Moreau reprend donc la procédure à zéro. Il note ainsi plusieurs anomalies, à commencer par l'arme qui a servi à abattre Bandjougou Diawara. Le rapport balistique précise que le fusil du crime retrouvé sur place a été examiné et ne comporte aucun résidu de tir, pas de trace de poudre, incompréhensible pour les experts consultés par le criminaliste, selon lesquels un tir avec ce type d'arme, un fusil à canoncier, laisse toujours une poussière grise dans le canon. Roger Marc Moreau s'interroge encore sur les trois relevés ADN sur l'arme. Les experts à nouveau sollicités n'excluent pas qu'il s'agisse, dans le cas de Michel, dont la trace, rappelons-le, a été trouvée sur la gâchette, n'excluent pas, on l'a dit, qu'il s'agisse d'un ADN de contact. La quantité d'ADN est tellement infime qu'elle ne correspond pas à une pression franche et constante sur la détente du fusil. Autre point relevé, le troisième ADN retrouvé sur le fusil, inconnu celui-ci, figure également sur les gants chirurgicaux retrouvés dans la poubelle près de la scène du crime. Or, cet ADN n'a jamais fait l'objet, côté policier, d'aucune recherche, d'aucune comparaison avec le FNAEG, le fichier des empreintes génétiques. Michel Fine, journaliste et auteur d'une enquête très fouillée sur cette affaire Da Silva, parlez-nous un petit peu de ce problème autour de l'arme. Est-ce qu'elle a servi ou pas servi? Est-ce que ce fusil retrouvé dans la voiture est celui de est bien l'arme du crime?
À partir du moment où il n'y a pas de trace de poudre dans le canon du fusil, c'est un problème. Ça veut dire que le fusil n'a pas tiré. Ou alors, il a été nettoyé après, mais c'est quand même très compliqué que d'y penser que les tueurs ont nettoyé le canon du fusil, puis l'ont laissé là. Enfin, ça ne tient pas debout. C'est carré à partir du moment où une arme n'a pas de poudre de tir à l'intérieur du canon, ne présente pas de résidus de tir, c'est qu'elle n'a pas tiré. En revanche, cette arme est en partie l'arme du crime, parce que c'est avec la crosse de cette arme que le crâne de Bendigu Diawara a été défoncé.
Ça, c'est une certitude.
On lui a tapé dessus.
C'est une certitude. On trouve des traces.
Ah oui, ça, c'est une certitude. On trouve de la matière, de
la peau, etc.
De la peau, du sang. Ça, on en est sûr. Ce qu'on sait, c'est que cette arme n'a pas tiré. La troisième chose, c'est qu'on trouve une cartouche de calibre 12, une douille, à côté de l'arme, par terre. Mais dans les fusils, on ne peut pas être sûr que la cartouche a été percutée par cette arme à ce moment-là. Le culot de la cartouche porte des traces similaires à d'autres cartouches tirées par cette arme-là, mais il n'y a pas de signature comme dans un pistolet, par exemple. Un pistolet, il tire une balle, il va mettre des rayures.
C'est une cartouche de chasse, hein,
une cartouche
Brennec,
hein,
pour le gros gibier. Donc, Maître Cormier, vous êtes l'avocat de Fabrice Da Silva. Alors, dites-nous très clairement, quel est selon vous le scénario de cet assassinat? Vous excluez évidemment votre client de la scène de crime.
Alors,
qu'est-ce qui s'est passé?
On va résumer quand même, parce qu'au final, on a un ADN en mélange, celui du fameux Michel, qui apparaît à la deuxième expertise, qui n'était pas à la première.
Déjà, il sort du chapeau.
Il sort du chapeau sur une arme qui n'est pas l'arme du crime. Ce n'est pas cette arme qui a tiré sur Ben. Effectivement, on l'a frappé avec, mais ce n'est pas l'arme qui a tué. Donc, toute l'hypothèse qui reposait là-dessus, en gros, on disait si Michel a tiré, c'est parce que Fabrice lui a demandé, sinon il n'y a aucun lien entre Michel et Ben, tout ça s'écroule. Le scénario très probable, il faut plutôt le chercher du rôle d'indicateur. Ben avait travaillé pour un indicateur pour un officier traitant qui a été très peu coopératif avec les enquêteurs.
Et ça va être un peu au cœur d'ailleurs du procès qui va arriver. Mais est-ce que Michel Fin, peut-être vous avez un scénario de ce qui a pu se passer cette nuit-là? Qui manipule l'arme, etc. Et puis pourquoi remettre cette arme à sa place? Tout ça est bien mystérieux.
Alors, ce qu'on sait, c'est que Ben, il avait un passé, il était indique, il se savait menacé, il disait à sa femme de surtout pas donner sa nouvelle adresse, il était de Trappes, il avait traversé la région parisienne pour se cacher, hein, parce qu'il y avait des gens qui le recherchaient pour lui faire la peau, il voulait faire déménager sa mère. Donc Ben, il avait ce fusil pour sa protection. Il y a des gens qui ont dit qu'ils avaient vu ce fusil dans son coffre. Donc, il se fait agresser. On peut imaginer, c'est une hypothèse, qu'il a pris le fusil pour se défendre. Est-ce que ses agresseurs ont attrapé le fusil pour lui taper dessus et lui ont tiré dessus avec une autre arme qui est vraisemblablement un fusil à pompe, qui est une arme très courante dans le milieu des voyous? Fusil à pompe, ils en ont tous, parce que c'est une arme qu'on peut cacher facilement et qui fait du mal. C'est la deuxième hypothèse.
Et l'hypothèse d'un rendez-vous fatal, finalement. Est-ce que cet endroit-là, vous êtes allé sur place, Michel Fin, alors en quelques mots, mais c'est un rendez-vous un petit peu désert, c'est ça?
Alors, on est à côté d'un terrain de foot, on est sur une route, il y a des maisons au bout, mais là où s'est déroulé le crime, il n'y a personne, il y a assez peu de passages. Alors, deux hypothèses, soit il avait quelque chose à cacher, Ben, il continue à faire du trafic de drogue, il avait rendez-vous là, pour acheter de la drogue ou je ne sais quoi, et il ne voulait pas qu'on le voie. Ça, c'est une hypothèse. Et ça a mal tourné. Soit quelqu'un qui le connaissait bien, sachant qu'il était très méfiant et qui savait que des gens le recherchaient, lui a donné rendez-vous à cet endroit-là et a fait venir les tueurs, gens qui lui en voulaient. Ça, c'est la deuxième hypothèse.
Un règlement de compte classique dans le milieu de la délinquance ou de la grande délinquance.
Absolument.
Hein, c'est ce scénario qui peut effectivement prévaloir. Alors, Fabrice Da Silva et puis Michel, son ami, Maître Cormier, vont sortir hein, au bout de 15 mois, c'est ça hein.
C'est ça.
Ils vont sortir au bout de 15 mois de prison. Quel est ce signal envoyé là par la justice ? Parce que dans ce genre de dossier, en général, on ne sort pas aussi facilement.
Non, en général, on ne sort pas. En vérité, je pense que la chambre d'instruction de la cour d'appel a voulu signifier qu'il fallait avancer très prudemment dans ce dossier. Il est regrettable que la cour d'assises de Pontoise n'ait pas eu la prudence nécessaire, n'ait pas reçu le message. Mais ce qui est notable, c'est que juste après la condamnation, Fabrice et Michel ont été libérés par la même chambre d'instruction de Paris, en août 2019. Donc, vraiment juste après la condamnation. Et ça, c'est encore plus rare. C'est pour dire, attention, les magistrats disent qu'il faut avancer très prudemment dans cette affaire.
C'est donc libre que Fabrice Da Silva et Michel vont comparaître devant la cour d'assises. Leur entourage est confiant, les contradictions sont nombreuses, la défense de l'agent immobilier dispose même d'un nouvel élément qui pourrait faire basculer le dossier. L'affaire Fabrice Da Silva, les doutes vont-ils profiter à l'accusé ? L'enquête de l'heure du crime ce soir sur RTL, on se retrouve dans un instant.
L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard, jusqu'à 21h. L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard, jusqu'à 21h sur RTL.
Ce soir, l'affaire Fabrice Da Silva dans l'heure du crime. En cette fin novembre 2018, le procès de cet agent immobilier soupçonné d'avoir commandité le meurtre de son associé et d'avoir confié la basse besogne à un ami, ce procès s'ouvre à Bobigny. Le 30 novembre 2018, Fabrice Da Silva et son ami Michel, respectivement considérés comme commanditaires et exécutants du meurtre de Bandjougou Diawara, alias Ben, comparaissent devant la cour d'assises de Seine-Saint-Denis. La défense de l'agent immobilier, en émettant des doutes sur l'ADN et la balistique, a déjà considérablement fragilisé l'accusation. Cette défense, composée alors de maître Sylvie Noakovitch et du criminaliste Roger Marc Moreau, dispose encore d'un atout important. Les recherches sur la personnalité de la victime confirme effectivement que Ben est un indique de la police, un homme qui aurait, comme on dit dans le jargon, donné plusieurs affaires aux policiers, notamment des affaires de stup. Il apparaît également que cette qualité d'indique, de balance, commençait à circuler. Ben, montré du doigt, se serait fait ainsi beaucoup d'ennemis au point qu'un contrat aurait pu être placé sur sa tête. Un enquêteur cité comme témoin confirme la qualité d'indique de la victime, impossible à ce stade d'exclure un règlement de compte. Plus de 50 témoins vont défiler à la barre, même si le dossier paraît alors bancal, même si l'affaire semble avoir basculé en faveur des accusés, l'avocat général enfonce le clou et demande des peines allant de 18 à 20 ans de prison. Contre toute attente, les jurés ne vont pas seulement le suivre, mais frapper encore plus fort. 22 ans pour Fabrice Da Silva, 18 ans pour le dénommé Michel. Fabrice Da Silva dira alors avoir ressenti le sol se dérober sous ses pieds. Malgré la lourdeur des peines, les deux hommes seront libérés après 8 mois de détention, comme si la justice n'était pas sûre à 100% de cette condamnation. Le procès en appel livrera peut-être une autre lumière sur cette affaire. Bonsoir Fabrice Da Silva.
Bonsoir Jean-Alphonse Richard, merci de m'accueillir sur le plateau d'RTL.
Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. On vous donne la parole ce soir bien volontiers dans l'heure du crime. Comment avez-vous, Fabrice Da Silva, comment avez-vous vécu le verdict de la cour d'assises ?
Vous ne pouvez pas imaginer ce qu'on peut ressentir quand on est condamné à tort comme ça et qu'on a plein de choses qu'on vous met devant vous et que vous essayez de vous dépatauger de toutes ces choses qui ne vous ressemblent pas. Il n'y a pas de mots à déterminer ça. C'est injuste. C'est injuste d'être condamné comme ça. Et de ne pas pouvoir se défendre surtout. C'est ça qui fait mal. C'est d'essayer de se défendre et de ne pas y arriver. Avec tous les éléments du dossier, avec tout ce qu'il y a dans le dossier, toutes les incohérences, juste tout est dans le dossier, et de ne pas pouvoir que justice voie réellement ce qui se passe, c'est dur, et ça fait peur. Et ça fait peur, je vous le dis, ça fait vraiment peur.
Vous avez le sentiment, Fabrice Da Silva, que la justice ne vous a pas entendu, et même, je vais même aller plus loin, qu'elle a peut-être voulu vous faire tomber, tout simplement ?
Au début, je pensais que c'était une machination, parce qu'ils vous disent, vous étiez là, vous avez borné ici, vous êtes là. Donc, je dis non, c'est pas possible. Il y a un problème, et là, il faut remettre les choses dans le contexte, je vais pouvoir discuter, rentrer dans les choses. Et j'ai vu que non, on pouvait pas, parce qu'ils étaient bornés sur des choses, et il fallait que ça soit comme ça. Et c'est de là où, après, je me suis dit, là, il y a un vrai problème. Mmh. J'étais en détention, j'étais accusé à tort. Quand j'allais voir le juge d'instruction, je voyais les questions qui étaient orientées à charge, il n'écoutait rien du tout de ce qu'on pouvait lui dire en disant, mais attendez, on était quand même amis, qu'on n'était pas du tout en litige, qu'il n'y avait pas de soucis entre nous, et rien n'a été vérifié. Et c'est de là qu'après, j'ai essayé de faire appel à un criminaliste, Roger Marc Moreau, qui a vu qu'il y avait énormément de problèmes dans le dossier.
Oui, il y a des problèmes dans le dossier. On écoute évidemment Fabrice Da Silva. Michel Fine, des problèmes dans le dossier, il y a ce problème du passé et presque du passif de la victime. Un indique. Alors pourquoi n'a-t-on pas enquêté là-dessus?
Mais moi, c'est ce qui m'a étonné de prime abord. C'est pour ça que je me suis intéressée au dossier. C'est de manière totalement incroyable. Moi, je connais la brigade criminelle. La brigade criminelle, on appelle ça le rouleau compresseur. On vérifie toutes les pistes. Là, il y a une piste béante, ouverte, évidente, qui n'a pas du tout été enquêté. C'est-à-dire que tout de suite, les amis de Ben disent ben, il était indique, il a balancé 3-4 équipes, il y avait des types qui le cherchaient. Ils donnent le nom de ces types-là, ils donnent l'adresse de ces types-là. La brigade criminelle ne va pas les entendre et la brigade criminelle ne va pas prendre leur ADN pour le vérifier aux ADN de la scène de crime. C'est pas normal.
C'est-à-dire que ce que vous nous dites là, Michel, c'est que tout l'entourage de la victime n'a pas été exploré, c'est ça ?
Pas du tout. Les gens qui lui en voulaient, les gens qui le cherchaient pour lui casser la figure à minima parce que il se disait partout dans le milieu que c'était une balance, il avait balancé tellement de gens qu'au bout d'un moment ça se savait, ces gens-là n'ont jamais été entendus. Chez Bendougou Diawara, en perquise, on trouve des photos d'identité judiciaire de 4 types fichés au grand banditisme. Ces gens-là ont été entendus parce que la défense a obligé le juge à les faire entendre. Mais ils ont été entendus, on va dire, à minima. Qu'est-ce qu'on a voulu cacher ?
Qu'est-ce qu'on a voulu cacher ? Maître Cormier, je sais que vous n'étiez pas à ce moment-là saisi du dossier. Il y a un témoin important qui est quand même tout de même venu à l'audience, hein, c'est ce policier, l'officier traitant, comme on dit, hein, de Diawara, qui... alors là, je suppose que ça va être une piste que vous allez suivre pour le prochain procès. Importante.
Mais évidemment, et d'ailleurs, la première chose qui interpelle, c'est exactement ce que vient de décrire Michel, c'est qu'on a affaire à un officier traitant qui va pas du tout coopérer avec les policiers, les enquêteurs, et qui va même leur raconter des âneries. Il va leur dire non, il l'était pas, puis après il l'était, mais ça fait très longtemps qu'il était plus en activité, et puis au final concéder qu'il était en activité, etc. Mmh. Et moi, je partage la même interrogation, c'est quand même sidérant de constater que les enquêteurs... c'est quand même pas banal d'avoir 4 photos de 4 personnalités fichées au grand banditisme de l'identité judiciaire chez soi. Probablement qu'on lui a demandé des renseignements sur ces gens. Il les a pas là pour les collectionner, ces photos. Et ça méritait à minima que les enquêteurs se saisissent de ça pour savoir ce qui se cachait derrière tout ça. Au moins, on n'a même pas essayé de savoir les dossiers dans lesquels il était intervenu, quelle personne concrètement il avait donné. Rien de tout ça n'a été fait.
Ça n'a pas été fait. Fabrice Da Silva, vous êtes... ce soir dans l'heure du crime, et je reviens vers vous, comment est-ce que vous abordez, vous, l'accusé, votre procès en appel, qui d'ailleurs n'est toujours pas audiencé, hein, je le précise.
C'est difficile, c'est vraiment c'est abordé avec vraiment délicatesse. J'espère vraiment que la justice va nous entendre, va nous écouter, tout du moins, ou regarder vraiment dans le dossier, lire entre les lignes. Je demande juste que le dossier soit lu vraiment dans l'intégralité, pas que les synthèses, pour pouvoir voir les éléments là où il y a vraiment des problèmes. Ce sont des faits qui sont très graves. On a été condamné à de lourdes peines en à peine 4 heures de délibéré sur 2 personnes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Voilà, on n'est pas du tout confiant en allant vers la justice, même si on croit encore à la justice, on veut croire à la justice, que vraiment ça va bouger, on va pouvoir faire des choses. Et c'est incompréhensible, même pour la famille de la victime, pour la famille de Ben, c'est pareil. Ils sont dans le flou, ils sont dans le flou total, et ils n'ont pas de coupable en face. Ça reste un crime impuni. C'est pas bon pour personne en fait.
Merci beaucoup Fabrice Da Silva d'avoir été ce soir notre invité dans l'heure du crime. Merci également à Michel Fine et puis Maître Sylvain Cormier qui étaient ce soir les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Marc Bisset à la réalisation. Et puis un grand merci à vous toutes et tous d'avoir suivi ce soir avec nous cette émission. On a essayé de faire le point sur une affaire qui était assez compliquée. Mais je crois que ça vaut le coup parce que s'il y a une erreur judiciaire à la clé, ben il faut en parler. C'est aussi notre devoir d'expliquer les choses et d'aller au fond des dossiers quand il le faut.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL. Pour écouter RTL, au travail,
sur la route,
dans les transports,
dans votre jardin
et où que vous soyez,
téléchargez dès maintenant et gratuitement la nouvelle application RTL.
RTL, toujours avec vous.